Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue sur Extraterrien dans cette série mensuelle dédiée à la nutrition sportive co-créée avec notre partenaire NutriPure. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que vous étiez très nombreuses à nous demander. Pour vous donner un petit peu d'éléments de contexte, on a fait il y a quelques mois un épisode avec Clémentine Geoffrey qui était championne du monde de trail et qui a abordé en fait son rapport à la nutrition et qui a avoué dans cet épisode notamment qu'elle avait eu des pertes de règles et elle avait parlé de l'influence de son cycle menstruel. À la suite de ça, on a eu énormément de questions sur le sujet et ça me semblait très important de pouvoir détabouiser et de pouvoir donner des clés à toutes les sportives, tout simplement pour mieux comprendre leur corps et la relation qui peut exister entre le cycle menstruel et la nutrition. Donc on va voir dans cet épisode comment votre cycle menstruel peut influencer vos performances sportives et votre récupération, mais aussi comment est-ce que vous pouvez mieux comprendre votre corps et comment est-ce que vous pouvez tirer parti des avantages du cycle menstruel. Et enfin, est-ce qu'il peut être judicieux d'adapter votre alimentation en fonction des moments de votre cycle, tout simplement pour aller en accord avec les besoins de votre corps. Ça me semblait complètement insensé de faire cet épisode seul pour des raisons qui me semblent évidentes. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de ma nutritionniste préférée, Marie. Salut, comment ça va ?
Ça va très bien, merci. Et toi ?
Eh bien écoute, je suis enchanté de faire cet épisode. Comme je te le disais, on a eu beaucoup de demandes et c'est un sujet qu'on voulait traiter ensemble depuis un moment, notamment parce qu'il existe pas beaucoup de contenu sur le sujet, parfois un petit peu tabou. Alors, comme je suis un garçon et que je connais pas forcément toutes les problématiques, je vais essayer de poser mes questions avec de la candeur d'un côté, mais aussi beaucoup de bienveillance. Donc surtout, t'hésites pas, tu me reprends si je dis des bêtises ou si mes questions sont pas pertinentes. Mais en tout cas, j'ai beaucoup travaillé le sujet, donc j'espère que ça va être un bon moment. T'es prête ?
Oui, c'est parti.
Juste avant ça, comme on a un gros programme, est-ce que pour les auditrices et les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en deux mots pour nous expliquer à quel point tu es pertinente pour répondre au sujet aujourd'hui ?
Bien sûr, donc je m'appelle Marie Chavannes, je suis nutritionniste experte en nutrition sportive chez NutriPure et également responsable de la performance, donc j'accompagne des athlètes de tout niveau à activer leur potentiel et atteindre leurs objectifs en prenant en compte tout ce qui peut interférer à ça, notamment le cycle menstruel. Donc ça va être un sujet intéressant aujourd'hui.
Je sais aussi que tu accompagnes plusieurs athlètes que j'ai eu la chance d'interviewer sur Extraterrien et je sais que les athlètes qui viennent te voir sont entre de bonnes mains. Donc on met aussi d'ailleurs pour ceux et celles qui sont intéressés le lien. Vous faites toujours les rendez-vous avec toi qu'on peut commander.
Il y a toujours les quarts d'heure. Maintenant, ça sera avec Xavier, notre nouvelle recrue qui nous a rejoint en fin d'année.
Ok.
Mais je reste à dispo pour les athlètes de haut niveau et les accompagnements nutritionnels.
Bon bah écoute, trop bien, je te propose qu'on attaque et qu'on rentre dans le vif du sujet. Ça va être un épisode un peu plus long, un peu plus dense. Peut-être rappeler le préambule, est-ce que tu peux rappeler les différentes phases du cycle menstruel et peut-être les conséquences qu'il va y avoir sur l'équilibre hormonal des femmes ?
Bien sûr, donc déjà pour rappel, le cycle il va durer en moyenne 28 jours. L'objectif il va être le même chaque mois, c'est-à-dire préparer l'utérus à l'anidation d'un éventuel futur embryon. Et pour ça, on va avoir différentes étapes, à savoir les menstruations, c'est ce qui va permettre de démarrer en fait le cycle. On aura toujours la phase de menstruation. Et le cycle menstruel va se diviser en deux étapes. Premièrement, la phase, ce qu'on appelle folliculaire, qui va durer du 1er au 14e jour, où on va avoir les œstrogènes qui vont être majoritaires, prépondérants d'un point de vue hormonal sur cette période. On verra ensuite l'impact que ça aura d'un point de vue performance. Et dans un deuxième temps, la deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase lutéale, donc qui va intervenir du 15e au 28e jour en moyenne. Hein, la phase peut un petit peu varier. Et là, ça va être plutôt la partie progestérone d'un point de vue hormonal qui va être majoritaire sur cette phase. À noter qu'entre les deux phases, on va retrouver la partie ovulation qui va permettre de dissocier ces deux phases. Et enfin, en fin de cycle, ça va être donc une répétition puisqu'on va avoir une chute des hormones pour revenir sur la menstruation. Donc c'est vraiment une répétition où à retenir donc plutôt les œstrogènes qui dominent dans la première phase, plutôt la progestérone dans un deuxième temps, puis la chute des hormones qui induit les menstruations.
Ok. Si je récapitule, donc, on a la première phase où on a effectivement une montée du taux d'œstrogène qui va amener à l'ovulation.
Oui.
Et ensuite, une deuxième phase où ça va être une montée du taux de progestérone et qui va aboutir sur les menstruations.
Exactement. Ça, c'est de manière simplifiée. Après, il y a beaucoup plus de variations, mais si on peut le schématiser, c'est ça. Ouais.
Écoute, ça me semble bien de rappeler les bases. Il y a aussi beaucoup d'ados et de jeunes femmes qui nous écoutent. Et même pour les hommes comme moi, c'est toujours bien de rafraîchir la mémoire. Et au moins, on a les mots-clés et on a les mots qui vont être importants. Est-ce que ces différentes phases du cycle vont influencer la performance sportive? Je sais aussi que tu as quelques études sur ce que nous dit la science à ce niveau-là.
Alors du coup, je pense que ce qui peut être intéressant par rapport à ça, déjà, c'est de préciser qu'est-ce qui peut influencer la performance sportive. Déjà, il y a toutes les capacités innées de l'athlète, mais aussi les capacités acquises. Donc l'athlète va chercher à développer. Et pour ça, l'entraîneur va avoir un gros rôle à jouer sur le fait d'arriver à écouter, à motiver, mais surtout à adapter. Pourquoi adapter? Parce qu'il y a 30 à 40% des femmes en âge de procréer qui peuvent souffrir de ce qu'on appelle du syndrome prémenstruel. Donc c'est il y a pas vraiment de définition au syndrome prémenstruel. C'est plus des symptômes à la fois physiques, émotionnels, des désagréments en fait que la femme peut ressentir dans la semaine qui précède les règles, donc les menstruations, où voilà, il peut y avoir tout un tas de désagréments. Ça c'est aussi propre à chaque femme. À noter aussi qu'en 2021, il y a une étude qui a été faite et qui révèle que 84% des sportifs de haut niveau disent en fait vivre les menstruations comme une étape difficile. Donc ça montre à quel point il y a une certaine forme d'appréhension à l'arrivée de cette phase du cycle et que c'est quand même en majorité mal vécu, mal perçu par toutes ces sportives. Donc ça peut être effectivement un frein à la performance s'il y a des désagréments qui sont associés et ça va impliquer donc d'adapter sur cette période-là. Après, tu me posais la question du coup par rapport à ce qu'en dit la science. Donc là, ce qui est intéressant, c'est j'ai beaucoup regardé le travail de Juliana Antero, qui est chercheuse à l'INSEP, qui s'intéresse en fait à toutes les particularités féminines et l'impact notamment du cycle sur la performance. Et donc, comme je le disais, en phase folliculaire, il y a donc une prédominance des œstrogènes qui, si on le schématise un petit peu, représente l'hormone de la force, de la puissance. Donc, les études ont montré une corrélation assez intéressante de miser sur un entraînement plutôt de puissance, d'explosivité sur cette première phase. Donc, je le rappelle, c'est du 1er au 14e jour. À noter que pendant l'ovulation, les études montrent une laxité au niveau des ligaments, donc un risque de blessure qui serait plus important. Donc vigilance sur ce 14e, 15e jour.
Et enfin,
c'est le pic d'œstrogène qui arrive à ce moment-là, qui induirait effectivement une faiblesse au niveau des ligaments. Au moment où il y a plus d'œstrogène, c'est ce qui en ressort en tout cas.
Ok.
Donc voilà.
Ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, augmentation de la puissance, donc augmentation de de l'élasticité musculaire et donc potentiellement un trop-plein à ce niveau-là.
Okay. Et du coup, sur la partie phase lutéale, donc où on a la progestérone qui prédomine, là on a une augmentation du métabolisme de base, donc on brûle un peu plus d'énergie chaque jour, mais c'est un peu l'hormone qui apaise un peu plus, qui est plus calme. On va être plus peut-être sur un travail d'endurance. Il peut y avoir aussi un peu plus de fatigue. donc faut quand même écouter son corps et le partager avec l'entraîneur pour adapter en fonction de comment l'athlète vit la période. Et ensuite, on va se retrouver, comme je le disais, à nouveau dans la phase menstruation, où là, c'est vrai qu'on va peut-être privilégier plus du travail technique, parce que souvent, il peut y avoir effectivement de la fatigue associée. Donc ça peut être intéressant, oui, d'adapter vraiment en fonction de la période et d'avoir un plan d'entraînement qui est vraiment corrélé en fonction de l'état de forme de notre athlète.
D'accord. Est-ce que toi, tu as pu rencontrer des sportifs, des athlètes qui, justement, adaptent leur entraînement en fonction de leur cycle, qui vont se calquer, justement, par rapport à ce cycle de 28 jours ?
Mais étant donné que c'est peu étudié, enfin, que ça commence vraiment on commence à s'informer de plus en plus sur le sujet et à le partager. Je pense que c'est vraiment récent le fait d'adapter la phase d'entraînement en fonction du cycle menstruel. Mmh. Au même titre que si on le prend à sens inverse, un entraînement très intensif peut aussi induire des changements sur le cycle, c'est-à-dire qu'un stress physique ou même psychique peut modifier la durée du cycle, par exemple. Notamment la phase folliculaire qui peut être un peu plus longue. Donc c'est pour ça que la théorie du 28 jours, elle reste théorique. Okay. En pratique, elle peut un peu évoluer. Mais c'est vrai qu'il y a peu d'athlètes encore, je pense, à l'heure actuelle, qui le prennent en considération, tout simplement par un manque d'informations. Mmh. Mais pour ça, oui, il y a du coup Juliana que je citais, qui travaille vraiment dur sur le sujet, et je pense que ça va aider à faire avancer pas mal de choses.
Bah écoute, je vais mettre les liens, en tout cas, vers ces recherches dans la description de cet épisode. Je pense que on pourra aussi aller plus loin. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser. Je pense aussi qu'il y a un souci aussi de manque de femmes, en tout cas parmi les entraîneurs, dans le corps d'entraînement et de la haute performance et de la performance de manière générale. Donc je pense qu'il y a vraiment de la place, en tout cas pour les femmes, pour accompagner des femmes et pour créer des plans d'entraînement plus adaptés à la demande féminine. Donc si vous voulez vous lancer, sachez que voilà, il existe des besoins et que effectivement il y a encore tout à faire sur ce champ-là. Est-ce que tu nous as dit que effectivement l'œstrogène va favoriser plutôt la force, la puissance. Est-ce qu'à l'inverse, on va avoir une hormone ou une phase du cycle qui va peut-être plutôt favoriser l'endurance ou les efforts un petit peu longs, la résilience? Je sais que j'ai lu là, c'est sur les performances masculines, avoir de la testostérone pour l'endurance était intéressant parce que ça permettait d'être plus résistant à la douleur, mais plus on travaille son endurance, plus le taux de testostérone baisse. Donc il y a des choses assez intéressantes à lire là-dessus. Est-ce que chez les femmes on retrouve des mécanismes un peu similaires sur vraiment la partie endurance?
Mais sur la partie, enfin la sécrétion de testostérone pardon dont tu parlais, ça va prendre effet vraiment à la suite d'un entraînement intense. On va noter une production un peu plus importante de testostérone. Après, par rapport à la phase d'endurance, ce que je disais effectivement, c'est que dans la deuxième phase du cycle, plutôt la phase lutéale, donc post-ovulation jusqu'aux menstruations, où c'est plutôt donc la progestérone qui domine, là on va avoir du coup, c'est plus une hormone qui est davantage calme, qui pose un peu plus. On est beaucoup moins dans l'explosivité, dans la force, dans la puissance, contrairement à la première phase du cycle. Donc on pourrait se dire effectivement pourquoi pas travailler l'endurance sur cette phase-là. Après, ça va dépendre des athlètes, c'est-à-dire que la partie explosivité, force, puissance, elle peut être appréciée aussi sur un long effort où on va aussi chercher ses limites, se dépasser. Ça, dans tous les cas, l'entraînement, il va évoluer en fonction des objectifs aussi de l'athlète. Il va y avoir tout un bloc de prépa qui va être spécifique.
Ouais, ok. Est-ce qu'il va y avoir aussi des baisses d'énergie ou des hausses d'énergie à certains moments du cycle? On a effectivement mentionné que durant la phase de menstruation, beaucoup de femmes et beaucoup d'athlètes le voyaient comme un moment plus compliqué, plus délicat dans leur entraînement. On a aussi vu qu'il y avait un petit pic de blessure au moment de l'ovulation. Qu'en est-il au niveau du ressenti et de l'énergie? Est-ce que toi, tu as observé des choses à ce niveau-là?
Alors du coup, sur le niveau d'énergie, en théorie, il est quand même un peu plus haut pendant cette phase folliculaire avec l'œstrogène, ou au niveau alimentaire, on va souvent avoir plus d'envie, peut-être davantage protéinée, et versus sous progestérone, enfin lorsque la progestérone domine, là effectivement on peut avoir une petite baisse d'énergie, mais avec une envie des besoins en glucides qui sont un peu plus élevés, donc ça justifie aussi le fait que la partie glucides c'est le carburant, ça apporte de l'énergie, donc c'est pas anodin, les signaux que le corps il envoie sont quand même bien justifiés puisque j'ai une baisse d'énergie, j'ai envie de glucides pour justement corriger tout ça. Et par contre, c'est vraiment la période, alors soit s'il y a le syndrome prémenstruel, comme je le disais, la semaine qui précède les menstruations, là il peut y avoir un niveau de fatigue important, au même titre que pendant les menstruations, les hormones sont au plus bas. Donc là, effectivement, la fatigue, elle peut se faire ressentir. Donc le travail de résistance, d'endurance, il est peut-être moins adapté. C'est pour ça que je proposais du travail technique, plus travailler la technique sur cette période-là.
Ok. Tu as commencé à parler effectivement de besoins nutritionnels, de protéines, de glucides. Moi, j'entends aussi, tu vois, que sur une phase de menstruation, il peut y avoir une petite perte de sang, donc une perte de fer et de minéraux. Comment est-ce qu'on peut accompagner son cycle et mieux gérer son cycle tout du long, sur les 28 jours, avec l'alimentation? Est-ce qu'on peut combler certaines carences ou répondre à certains besoins, comme tu le disais?
Oui, alors sur le cycle menstruel, effectivement, s'il est abondant, il va quand même y avoir des pertes en fer, comme tu le disais, qui seront assez importantes. Donc c'est important de veiller à un apport en fer quotidien, journalier, de vraiment répondre à ses besoins. Pour ça, on a donc du fer dans notre alimentation de deux sources différentes, d'origine animale qu'on appelle fer héminique, via les viandes rouges notamment, versus du fer d'origine végétale, appelé non héminique, qui nécessitera l'utilisation d'une vitamine C pour être absorbée. Donc c'est intéressant d'associer pourquoi pas un peu de jus de citron sur des légumineuses, lentilles, etc. Pour compléter les besoins en fer. Donc ça, c'est la première chose. Après, grosse vigilance sur l'apport lipidique de l'alimentation, donc toutes les matières grasses et les bonnes huiles, notamment l'oméga 3, l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de lin, puisque les sécrétions hormonales découlent d'un apport lipidique des matières grasses. Et ça, on le voit en fait sur pas mal d'athlètes qui ont un pourcentage de masse grasse trop bas. On a le risque d'être aménorrhée, donc d'avoir une absence de règles. Là, les premiers signes, souvent, c'est s'il y a de la fatigue qui arrive, s'il y a des contre-performances, s'il y a des blessures. Ça, déjà, ça peut orienter sur le fait que l'apport énergétique, il est trop insuffisant par rapport à la dépense énergétique de l'athlète. S'il y a une restriction alimentaire, ça va influencer les sécrétions hormonales. C'est-à-dire que sécréter des œstrogènes, de la progestérone, ça devient plus la priorité du corps. Il va se concentrer sur le cerveau, sur le cœur, sur les muscles, qui vont être beaucoup sollicités. Mais le cycle, ça devient vraiment secondaire.
Ok. Écoute, je fais écho et je fais rebond sur l'épisode que je mentionnais en introduction avec Clémentine Geoffrey, qui explique qu'elle faisait vraiment la chasse à toute matière grasse dans son alimentation, que ça soit le beurre, les huiles, tout ce qui pouvait contenir des matières grasses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs, elle essayait vraiment de les chasser et ça peut, comme tu le dis, du coup, expliquer entièrement la perte de règles, en fait.
Oui.
La disparition.
Et c'est vrai que moi, je l'entends souvent, même en consultation, je veux pas prendre de gras, donc je mange pas de gras. Mais la nuance, c'est quand même d'avoir en tête que les acides gras, certains sont essentiels pour l'organisme, puisque le corps n'est pas en capacité d'en produire de lui-même, notamment les oméga 3, les oméga 6. Donc d'avoir le bon ratio, le bon équilibre pour permettre une synthèse hormonale qui est adaptée au bon fonctionnement du corps. Parce qu'un cycle qui fonctionne bien, c'est signe d'une bonne santé.
Ouais.
Donc c'est un bon repère aussi de se fier à ça et d'être aménoré, comme je le disais. Il y a un risque de blessure osseuse qui est plus importante, notamment d'ostéoporose, qui est 2 à 3 fois plus présente chez les femmes que chez les hommes. Donc de faire en sorte d'avoir des bons apports d'un point de vue quantitatif, mais aussi une qualité adaptée pour un bon fonctionnement.
Ouais. Bah écoute, merci de mettre en garde et de clarifier en tout cas par rapport à ce sujet-là, parce que je pense que c'est une croyance qu'on nous a insufflée depuis tout jeune que tout ce qui est gras est mauvais. Alors effectivement, il y a les acides gras saturés qu'il faut effectivement essayer de chasser.
Oui, de limiter.
Limiter. Beaucoup de lipides sont de très bonne qualité et sont essentiels au bon fonctionnement. D'ailleurs, moi-même, je me complémente en oméga 3. Je ne sais pas si c'est un effet placebo ou pas, ou le fait de l'avoir vu chez certains créateurs de contenu et entrepreneurs, mais j'ai l'impression que j'ai des meilleures performances cognitives. Et j'avais vu chez un créateur de contenu que effectivement notre cerveau est essentiellement composé de matière grasse. Notre cerveau est gras. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que certains aiment bien le manger chez les animaux. C'est grâce à un goût très particulier. Ça fait sens quand je dis que effectivement me complémenter en oméga 3, ça, je sens que ça améliore mes performances cognitives.
Oui, comme tu le disais, le fonctionnement cérébral, il va vraiment dépendre des matières grasses, des lipides. Donc effectivement, les oméga 3, ils vont avoir un rôle à jouer sur le bon fonctionnement cérébral. Donc c'est hyper important d'en consommer au niveau alimentaire, deux, trois portions de poisson par semaine, en essayant de varier entre du poisson gras, petit poisson gras, sardines, maquereaux, et poisson maigre, pour avoir un bon apport. Mais effectivement, pas hésiter à se supplémenter, parce qu'à l'heure actuelle, on surconsomme les oméga 6 qui sont plutôt pro-inflammatoires, donc qui favorisent l'inflammation, au détriment des oméga 3 qui sont plutôt anti-inflammatoires. Okay. Et ça, c'est intéressant, même si j'élargis un peu dans les sports de combat, de contact, type rugby, football américain, au niveau cérébral, il y en a beaucoup qui se supplémentent en oméga 3 pour prévenir tout ce qui peut être commotion, etc. Y a de plus en plus d'études qui sont faites à ce sujet.
Ouais, ok. Je vois aussi un intérêt pour les sports d'endurance. Quand même un sport, quand on s'entraîne beaucoup, oui, avec des gros volumes d'entraînement,
bien
ça
sûr
favorise l'inflammation. Et du coup, une complémentation en oméga 3 peut être pertinent pour contrebalancer.
En récupération, ça. Ouais.
Donc, en tout cas, ce que je retiens, c'est que, effectivement, éviter de faire la chasse aux matières grasses est une bonne chose pour votre santé et pour votre cycle menstruel au sens large. Que effectivement, se complémenter en oméga 3, ça peut prévenir en tout cas d'une disparition des règles. Ça peut aussi prévenir de l'ostéoporose, comme tu le mentionnais. En tout cas, ça peut avoir un petit effet. Tu as parlé des athlètes aménorrhées. Si c'était mon cas ou si c'est le cas d'une auditrice, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place dans son alimentation pour essayer d'accompagner en fait ce trait de caractère?
Bah, ce qui va vraiment jouer, c'est l'apport énergétique total. Comme je le disais, on va prendre en compte sa dépense énergétique, donc à savoir son métabolisme de base, donc qui tient compte de son âge, de son poids, de sa taille, mais aussi de son volume d'entraînement, de sa profession si à côté il y a une autre activité qui est faite. Et tout ça, ça conditionne une certaine quantité de calories brûlées sur la journée et d'adapter l'apport alimentaire en conséquence. Parce que souvent, s'il y a une aménorrhée, c'est que généralement il y a une restriction calorique ou un pourcentage de matière grasse qui est trop bas, donc du coup on va chercher à rééquilibrer les apports des différents macros, mais notamment des lipides comme je le disais, pour faire en sorte que le cerveau puisse à nouveau sécréter les synthèses hormonales pour faire en sorte qu'il y ait un bon fonctionnement du cycle menstruel.
Ok. Écoute, ça tombe très bien. Là, on est en train de s'embarquer sur un autre sujet qui est très grand aussi. L'épisode qui va sortir le mois d'après, ça sera un épisode qui sera dédié aux troubles du comportement alimentaire, qu'on fera avec Marine et Christophe pour vraiment essayer de comprendre en profondeur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est très tabou dans l'alimentation sportive, qui concerne autant des athlètes masculins que des athlètes féminines. Donc je vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour traiter de ce sujet-là. Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'était le sujet du fer. J'ai un souvenir, en tout cas plus jeune, d'avoir vu dans des publicités ou dans des contenus que effectivement pour accompagner la phase de menstruation, ça pouvait être intéressant de se complémenter en fer. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? Qu'est-ce que nous dit la science à ce niveau-là?
La supplémentation en fer, il faut pas la faire de manière autonome, puisque en excès, le fer, il est quand même pro-oxydant. Donc ça justifie toujours un bilan sanguin en amont. Si anémie il y a, effectivement, la prise de fer va être systématique. Et par contre, ça justifie de checker systématiquement, d'avoir vraiment un suivi médical à ce niveau-là, pour pas le faire en autonomie. C'est important déjà au niveau alimentaire d'avoir suffisamment de fer pour répondre aux besoins journaliers, comme je le disais. Mais derrière, d'être vraiment sous surveillance médicale, puisque s'il y a des règles abondantes, effectivement, il peut y avoir un risque d'anémie plus important, mais de vérifier en amont si le taux il est suffisamment bas pour justifier une supplémentation, au risque d'avoir le côté pro-oxydant du fer en excès.
Ok, donc fausse croyance de penser qu'il faut absolument se complémenter en fer.
Non, c'est vraiment pas la priorité. Les oméga 3, ils peuvent vraiment être pris de façon autonome, sans problème. Par contre, le fer, ça justifie vraiment un bilan sanguin, comme je le disais, pour se supplémenter.
Ok, mais écoute, merci pour ces précisions. J'ai envie qu'on rentre un petit peu dans le cadre spécifique d'une compétition. Effectivement, tu vois, on a vu les différentes phases du cycle, que chaque phase avait un peu ses spécificités, ses avantages et ses inconvénients. Lors d'une compétition, c'est le jour J, c'est le jour un petit peu clé pour un athlète. Souvent, ça met en lumière des mois et des mois de travail. On a dit qu'il y avait une période sur laquelle il pouvait y avoir une baisse d'énergie. Durant l'ovulation aussi, une phase dans laquelle une femme peut être un petit peu plus victime de blessures. Ça augmente le risque de blessure. Qu'est-ce que toi, tu peux conseiller à une athlète, tu vois, à l'approche d'une compétition, aller, disons, à un 10 km ou un marathon? C'est quelque chose que... Enfin, c'est le cas typique, en tout cas, que nous, on voit chez Extraterrien. Qu'est-ce qu'on peut recommander pour les différentes phases du cycle? Et si on commence, tiens, par la phase de menstruation, le jour d'une compétition, est-ce qu'il faut s'inquiéter, adapter son alimentation, adapter son sommeil? Qu'est-ce qu'on peut recommander?
Alors, chaque femme va réagir vraiment différemment et ça, c'est intéressant puisque certaines athlètes ont décroché leur record et titre le jour de leur menstruation. Et à contrario, il y en a d'autres qui ont complètement contre-performé parce que c'était le jour du cycle et que malheureusement, l'organisme y réagit différemment. Donc déjà, apprendre à bien se connaître, je pense que c'est important d'arriver à identifier. Okay. Oui, d'avoir, au même titre qu'on a le carnet d'entraînement, de noter un peu les symptômes, les désagréments associés en fonction de la période, parce que le cycle, il est récurrent, il revient chaque mois. Donc ça permet vraiment d'avoir en tête les dates peut-être plus à risque que d'autres. Après, malheureusement, on n'a pas la main sur les périodes de compétition, mais au moins de le savoir, de pouvoir s'y préparer. Et effectivement, s'il y a des symptômes, des désagréments, la chaleur, ça va aider à détendre et à calmer un peu les douleurs qui peuvent être présentes sur cette période-là. D'avoir une alimentation anti-inflammatoire pour là aussi limiter tout désagrément et souvent douleurs associées. Donc faire en sorte d'avoir des oméga-3, comme je le disais, anti-inflammatoires, des fruits, des légumes, d'éviter le sucre, l'excès de protéines qui vont être plutôt acidifiants, inflammatoires, qui vont générer parfois un peu d'inconfort. Mmh. Tout ce qui va être pareil, plat préparé, industriel, transformé, on va bien évidemment les mettre de côté, et ça pour le reste du temps aussi. Mais voilà, d'arriver à se connaître et surtout de se faire bien accompagner par des médecins, des gynécologues. Je pense à Carole Maître aussi, qui est très, très réputée dans ce milieu-là et qui permet d'avoir un bon suivi et d'adapter si besoin en fonction des athlètes, de mettre en place diverses stratégies. Ça va être la priorité pour qu'elle ait le moins d'inconfort possible et qu'elle puisse appréhender sa compétition la plus sereine possible.
Ok, super bien. Et c'est vrai que j'entends peu de mes amis demander à leur gynécologue si ce sont des spécialistes du sport. Mmh. On a beaucoup plus tendance à chercher un généraliste qui connaît un peu le sport ou un kiné, un ostéo, un ou une spécialiste d'ailleurs qui connaît en fait les problématiques des sportifs et des sportives. Mais en tout cas, j'ai pas entendu mes copines, mes amis se renseigner auprès de leur gynécologue, et ça peut être pertinent d'aller voir une spécialiste ou un spécialiste qui connaît un petit peu plus les problématiques que peuvent rencontrer les athlètes. Et je rebondis aussi sur l'importance du carnet d'entraînement. C'est fondamental selon moi. Hein. Ça peut être fait dans un fichier Excel ou dans un carnet, mais le fichier Excel, ça... Ça a l'énorme avantage de permettre de... Bah effectivement, c'est cyclique. Donc, on voit quand un comportement se répète, ça permet de le noter. Moi, j'ai fait des analogies entre la qualité de mon sommeil et mes performances sportives. Okay. Notamment, où j'ai ma montre qui me calcule, qui me met une note de sommeil. Et je mets mon état de forme après durant l'entraînement. Et je vois qu'effectivement, bah, quand
c'est
je dors
corrélé.
Mieux, il y a une corrélation qui est directe. Donc, ça permet vraiment de mieux se connaître. Donc, voilà, si... Pour apprendre, il faut commencer à mesurer.
C'est ça. Et je reviens sur le petit conseil que j'ai pas donné tout à l'heure aussi sur le fer notamment. Faire attention à la forme qu'on utilise puisque du coup, il y a souvent un risque de troubles digestifs associés à sa supplémentation. Donc moi, okay. J'ai tendance à orienter sur le bisglycinate de fer qui va être beaucoup plus digeste et moins à risque sur cette partie-là. Donc faire en sorte, pour faire du lien avec la compétition, si on a une compétition, qu'on est supplémenté, être sûr qu'on tolère la forme pour pas être à risque le jour J.
Ok. Écoute, hyper intéressant et merci pour tous ces conseils. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire si vous écoutez sur Spotify ou sur YouTube, si vous avez des conseils pratiques que vous mettez en place le jour d'une compétition, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Vous pouvez le faire à la fois sur Spotify ou sur YouTube, comme je le disais. J'ai une dernière question que je voulais te poser, ou en tout cas un dernier sujet. C'était sur le sujet de la récupération. On n'en parle pas assez de la récupération dans le monde du sport, et pourtant Dieu sait qu'il se passe. Enfin, Dieu sait que c'est un domaine qui est important. Est-ce que le cycle hormonal va influencer d'une manière ou d'une autre la qualité de la récupération? On a parlé un petit peu des études qui avaient été faites en fait sur les corrélations entre le cycle et les performances. Qu'en est-il du sommeil, de la récupération, du repos? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que la science nous dit des choses précises ou toi, en tant que spécialiste, tu vois des méthodes qui fonctionnent avec les athlètes?
C'est vrai que l'influence du cycle sur le sommeil ou réciproquement, il est pas encore très étudié à l'heure actuelle, alors que la récupération fait partie intégrante de l'entraînement. Donc effectivement, comme je le disais, si le syndrome prémenstruel il induit des douleurs, des désagréments et que ça impacte effectivement le sommeil de notre athlète, nécessairement la récupération peut être altérée. Donc c'est important de faire en sorte que le sommeil soit le plus récupérateur possible, bon en qualité et suffisant en quantité. Donc d'adapter l'alimentation pour qu'il y ait une bonne sécrétion de mélatonine, qui est notre hormone du sommeil. Mais c'est vrai que sur la partie récupération, ça va jouer en fonction de l'athlète, c'est assez individuel. Si elle sent qu'il y a des périodes de fatigue plus importantes, mais peut-être qu'il y aura un besoin de sommeil là aussi plus conséquent. Donc pourquoi pas ajouter une sieste qui a montré pas mal de bénéfices d'un point de vue scientifique. Ça peut être une stratégie, mais en tout cas, c'est en piste et je pense que c'est en cours de recherche, cette partie-là.
Ok.
Cette partie-là, pardon.
Donc, pas d'études qui montrent des liens directs, mais en tout cas, on constate empiriquement.
De manière indirecte, oui, ça pourrait.
Beaucoup d'influence, ouais.
Oui. Okay. De manière indirecte, ouais.
Écoute, très clair. Merci pour toutes ces précisions. Et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir parce que tu parlais de la sieste. Nous sommes normalement, notre cycle est fait pour que nous dormions deux fois par jour. Voilà, c'était le livre Why We Sleep que je te citais juste avant qu'on enregistre, que je recommande à beaucoup, dont j'ai fait un résumé d'ailleurs dans ma newsletter si vous êtes abonné, et qui explique très clairement que notre cycle dure 12 heures et qu'on c'est normal d'avoir effectivement ce coup de barre après manger. C'est accentué effectivement si on a mangé très lourd, si on a mangé des protéines animales par exemple, ou si on a mangé très gras, mais c'est parfaitement normal, et même avec une alimentation légère et facile à digérer, on a aussi ce petit coup de barre, c'est parfaitement logique. Merci beaucoup Marie pour cet épisode, j'espère que ça a apporté beaucoup de valeur. En tout cas moi j'ai appris énormément de choses. On a donné à la fois des astuces scientifiques, on a aussi essayé d'être très terrain, d'avoir des conseils pratico-pratiques. Où est-ce qu'on redirige les auditrices qui auraient des questions supplémentaires sur la page de NutriPure,
sur le service nutrition, ouais, ouais. De NutriPure ou directement sur l'Instagram de NutriPure s'ils ont des questions, on y répondra avec grand plaisir.
Eh bien écoute, merci beaucoup et je te dis à très vite pour un prochain épisode.
À bientôt, ciao ciao.
have your favorite one-hit wonder.
Or that overpriced toy your parents would never let you have.
Or that TV show that no one else remembers because it was canceled way too soon. Now what if we could fix it? I'm Francesca Ramsey.
And I'm DeLon Grant. And after 20 years of friendship, we are now hosting a new nostalgia podcast called Let Me Fix It.
Each episode, we'll dig into our favorite celebrities, shows, and brands of yesteryear, and then imagine what it would take to repackage them for relevance today.
Think of our show as an intervention, but with way less stakes.
So subscribe to Let Me Fix It wherever you get your favorite podcasts.